Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VO à Afrique. Comme chaque semaine, bien évidemment, c'est Sporama. Vous êtes à l'écoute pendant 25 minutes. On va refaire l'actualité sportive, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler en direct. Le téléphone 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Et vous continuez également la conversation sur notre page Facebook. On va d'abord saluer celui qui nous a fait vivre le Chan 2018 dans son pays, le Maroc. Depuis Casablanca en direct, Amine Birouk pour VOA Afrique. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également à Libreville, Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
À Kinshasa, notre station partenaire Top Congo FM et son rédacteur en chef Thierry Kamboundi. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, bien évidemment, on va revenir sur ce Chan 2018. L'épilogue, c'était dimanche au stade, au complexe Mohamed V, bien évidemment. 45 000 spectateurs pour assister à la victoire du Maroc qui a fait comme lors du match d'ouverture, une victoire 4-0. Cette fois-ci, la victime s'appelait le Tchad. On a eu un véritable festival offensif lors de cette finale, hein, Amine Birouk.
Et une victime nigérienne qui n'était pas véritablement, je dirais, venue en victime expiatoire et qui a finalement cédé devant les coups de boutoir de l'équipe du Maroc. Faudrait dire que le public a joué un rôle très important. Ils étaient 35 000. 60% du public était dans la partie découverte du stade. Il a plu toute la journée. Des conditions météo qui ont peut-être aussi eu un rôle important. Et puis, la détermination des joueurs marocains qui ont pris le match à bras-le-corps et qui ont dominé de bout en bout cette rencontre, hormis sur deux ou trois coups, les Nigérians n'ont jamais pu trouver la solution dans la défense marocaine, contrairement à une équipe des Lions de l'Atlas qui s'est procuré une multitude d'occasions de scorer. Avant le but inscrit par Hadref à la 44e minute, il y a eu deux, trois tentatives dangereuses, et notamment un retourné de ciseaux du meilleur joueur de la compétition, du meilleur buteur aussi, Ayoub Kaabi, sur la barre transversale. Donc, c'était une question de temps. Le premier but est arrivé à un moment psychologiquement important, 44e minute, juste avant la pause. Il y a eu également l'expulsion du joueur nigérien Moses à la 48e minute pour cumul de cartons jaunes sur deux fautes assez grossières, notamment la seconde avec les deux pieds en avant. Et puis à partir de là, un véritable festival des hommes de Jamel Selami. Deux buts qui sont arrivés en 3 minutes, le deuxième de Karti de la tête, le troisième signé Hadref qui était un peu l'homme de cette finale. Et puis il fallait avoir un moment pour le meilleur buteur de la compétition. Il avait beaucoup tenté, il avait touché deux fois les bois, une fois la barre et une fois le poteau, sur deux retournées. Ayoub Kaabi qui a mis son petit but personnel, son neuvième de la compétition, pour finir en apothéose cette rencontre où l'équipe du Maroc est devenue le premier pays organisateur à remporter le Chad, le troisième pays d'Afrique du Nord à dominer cette compétition en 5 éditions, après la Tunisie en 2011 et la Libye en 2014. Hormis la RDC, je ne vois pas qui pourrait pour l'instant faire de la concurrence aux équipes d'Afrique du Nord. Il est vrai que ces sélections possèdent des joueurs qui sont rodés pour les compétitions africaines des clubs et cela reflète également les niveaux des championnats actuels.
Alors on va bien évidemment revenir, hein. Carton jaune pour le présentateur, tout à l'heure j'ai dit le Tchad, c'est bien évidemment le Nigeria, merci d'avoir corrigé Amine. Merci pour cette analyse également. Avant de vous entendre les uns et les autres, on va écouter évidemment le sélectionneur du Maroc, tout sourire après cette belle victoire et évidemment ce beau parcours depuis 3 semaines au championnat d'Afrique des Nations, c'est Jamel Selami, on l'écoute.
On a abordé ce match avec confiance. On a aussi travaillé sur nos lacunes. On a essayé durant toute cette compétition d'améliorer le jeu de l'équipe nationale parce que vous savez bien que avant le début de la compétition, on avait beaucoup de problèmes. Il y avait des blessures de certains joueurs. Il y avait la fréquence des matchs qui nous a pas donné la possibilité de travailler sur certains aspects tactiques. Mais pendant ce match, on a demandé aux joueurs de donner tout ce qu'ils ont. Je pense que les latéraux et les ont contribué au jeu offensif. On a eu beaucoup d'occasions en début de match, on n'a pas pu les concrétiser, mais le but est venu à la fin de la première mi-temps, il nous a donné plus de possibilités, surtout quand on savait que l'équipe du Nigeria va sortir.
Voilà, hein, c'est bien évidemment Jamel Selami, l'extrait évidemment après cette victoire. On va saluer Élisée Mpatina Boykon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas,
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Africa.
Alors Élisée, hein, le Maroc inexistant hein, sur pardon, le Nigeria inexistant sur cette finale. Hein.
Oui, c'est une grosse déception hein, pour cette sélection nigériane qui devrait en tout cas essayer de faire quelque chose face à ces Marocains pourtant qui évoluent à domicile. On a vu que effectivement les Marocains avaient préparé ce tournoi. C'est comme si les Marocains savaient que le Maroc allait organiser ce tournoi depuis le début. C'était le Kenya, j'allais dire, c'était le Kenya qui devrait organiser ce tournoi. Mais depuis que les Marocains ont repris la compétition et bien cette sélection s'est bien préparée, félicitations au sélectionneur qui a passé un travail de fond à laine avec ses joueurs sélectionnés, les joueurs. Qui a remporté la Ligue des Champions. C'est une année avec beaucoup de consécration, il faut le souligner, puisque le Maroc a remporté les Jeux de la Francophonie du côté de la Côte d'Ivoire, les Marocains qui ont remporté plusieurs trophées cette année. Donc, c'est dire que c'est une année pour le Maroc, hein, le Maroc qui, quand même, a commencé par, en tout cas, se faire valoriser sur le continent africain. Une équipe qui a maîtrisé de bout en bout les Nigériens. Les Nigériens ont joué pratiquement 40 minutes, puisque après 40 minutes de cette finale, eh bien, les Marocains ont déroulé, ils ont concrétisé leur domination tout au long de cette compétition. Félicitations à cette équipe que lors du mondial russe, qu'on trouve réellement une équipe, une sélection marocaine qui puisse représenter vivement le continent africain.
Alors on va prendre un premier auditeur en ligne hein, qui nous appelle du Tchad. Il s'agit de Valentin. Valentin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous nous avez écrit sur Facebook hein, que vous étiez désolé hein, de cette défaite du Nigeria. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat?
Vraiment, le résultat était une catastrophe de la part du Nigeria. Je ne m'attendais pas à ça. Depuis la qualification du Nigeria pour le quart de finale, je disais que cette chance cela appartient au Nigeria. Et à ma grande surprise, je suis très désolé pour voir cette lourde défaite de score de 4-0. Je ne sais pas. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que le coach avait fait pour lancer cette défaite comme ça? C'est du classement où bien les joueurs n'étaient pas contents. Je ne sais pas est-ce qu'ils n'ont pas pris le dîner, je ne sais pas. Je me suis beaucoup posé très de questions, même la nuit. J'ai passé une nuit blanche par rapport à cette lourde défaite. Je n'ai jamais entendu dans mon histoire du foot que le Nigeria a été gagné par 4-0 dans une compétition quelconque. J'étais vraiment désolé. Et je félicite les Marocains d'avoir fait le remontage pour organiser la chaîne et remporter cette chaîne dans leur pays.
Alors, malheureusement, la ligne est difficile avec le Tchad. Merci beaucoup, Valentin, de nous avoir appelés. On va poser la question à Jules Valentin de Goué. Jules Valentin, on le disait évidemment hein, sur cette tendance hein, et ces bons résultats du football marocain, le football nord-africain en général, évidemment. Beaucoup de joueurs qui jouent ensemble, hein, qui sont déjà prêts, et dans ces championnats qui en plus sont très relevés. Hein, on pense notamment aux championnats marocains, tunisiens ou algériens.
Et ce qui s'est d'ailleurs ressenti sur le jeu produit sur le terrain, parce qu'on a remarqué pendant ce champ que les équipes qui avaient les championnats relevés poussaient vraiment le rythme, le jeu était spontané, et ma foi, on sentait qu'il y avait une ossature autour d'une ou de deux équipes. Ça a été le cas pour le Maroc, ça a été le cas pour le Soudan, ça a été le cas pour la Libye. Donc ce qui, ma foi, ne favorisait pas les équipes venues du sud du continent, qui étaient plus des sélections que des équipes et avaient des championnats qui, ma foi, depuis quelque temps, en dehors de celui de RDC, ne donnent pas de résultats brillants. Je peux dire qu'en gros, en fait, le Nigeria a soigné son parcours. Il a fait un parcours satisfaisant par rapport aux moyens qu'il avait. Il a eu une équipe prudente en défense et réaliste en attaque qui a toujours fait le service minimum jusqu'à la finale. Mais en finale, c'était un véritable tsunami qui a fondu sur l'équipe du Nigeria.
Merci beaucoup. On va prendre un nouvel auditeur qui nous appelle du Mali. C'est Brahima Doumbia. Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous de la VOA.
Alors vous estimez évidemment que le fait que la compétition soit organisée à domicile, à la maison pour les Marocains, cet apport du public, ça a joué selon vous hein?
Effectivement, depuis le début, on a vu les supporters marocains sortir massivement, ça il faut le dire, même si parfois le stade n'était pas plein. Mais de mon point de vue, depuis le début, j'ai dit de suivre cette équipe marocaine qui, de mon point de vue, ira en finale. Et elle est allée en finale et remporté la compétition. Je dis chapeau à cette équipe, chapeau à l'entraîneur et chapeau au meilleur buteur quand même. Je pense que surtout le meilleur buteur, il a quand même signé un contrat dans l'époque européenne, de mon point de vue.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelés depuis le Mali. Évidemment, on va revenir pour vous indiquer que le Soudan a gagné la petite finale face à la Libye. Le Soudan qui avait été tenu en échec un but partout après avoir inscrit le premier but. Et les Libyens qui ont égalisé dans la toute fin de match, un peu le même scénario que face au Maroc. Et puis, ce sont les Soudanais qui se sont montrés les plus adroits au tir au but. 4 tirs au but à 2. On va marquer une première pause sur VOA Afrique. On revient, c'est Sporama. Allez, on va parler à présent de ce qui s'est passé de l'autre côté du décor. C'était vendredi, c'était l'assemblée évidemment de la Confédération africaine, la 40e assemblée générale. Il y avait du beau monde évidemment pour cette assemblée générale à Casablanca. Tous les grands patrons du football africain et surtout du football mondial, puisque Gianni Infantino, le président de la FIFA, était sur place. Et le mélodrame évidemment, on va en parler avec Amine Birouk, le président de la CAF, Armat, le malgache, qui voulait un soutien clair, net et précis de la Confédération pour la candidature marocaine pour la Coupe du Monde 2026, et Gianni Infantino qui a tempéré tout ça et qui a demandé plutôt de l'impartialité, et finalement il a obtenu raison puisqu'il n'y a pas eu de vote soutenant, en tout cas au nom de la Confédération, la candidature marocaine. C'était important. Comment ça s'est passé lorsque vous étiez sur place, Amine?
Très simplement, il y avait une résolution qui allait être prononcée en direct parlant de soutien franc et massif de la Confédération africaine de football et de tous ses membres par rapport à la candidature marocaine. Tout cela a été tempéré déjà par une première notification de la part de la FIFA et du secrétaire général de la FIFA concernant les mesures d'impartialité qui ont été requises, sachant que la candidature américaine avait annoncé, la candidature américaine, mexicaine et canadienne avait annoncé qu'elles arrêtaient toute coopération ou toute signature de convention de coopération avec les autres associations nationales jusqu'au 13 juin, jusqu'au vote. Donc tout cela tempéré parce que il faut juste rappeler que le Maroc a signé une trentaine, voire même plus, de conventions de coopération avec les fédérations africaines. Ça dure depuis l'année 2015. C'est un travail de longue haleine qui a été effectué pour tout ce qui concerne la coopération technique, la coopération en termes de formation de cadres, la coopération en termes aussi de stages de préparation. Beaucoup de sélections africaines sont venues. Le Malawi, qui devait déclarer forfait pour les éliminatoires de la CAN 2019, a été repêché grâce en partie à la coopération du Maroc, qui a décidé de financer en tout cas ses stages de concentration, également ses déplacements. Et puis, évidemment, je dirais, il y avait une résolution qui allait être prononcée par Ahmed Ahmed, sachant que ce dernier, lors de la conférence de presse, a montré son mécontentement après le congrès, annonçant que lui, il allait continuer à soutenir de manière ferme, de manière publique, la candidature marocaine dans la mesure où il ne vote pas. Bien évidemment, ce sont des manœuvres en coulisses. Je pense que la presse marocaine s'est fait l'écho d'article venu des États-Unis concernant cette affaire, en disant que tout cela était des manœuvres qui visaient surtout à lester un peu la candidature du Maroc,
ouais, alors, qui compte
énormément sur le soutien franc et massif des pays qui représentent la CAF.
Oui, alors on va poser la question à Thierry Kamboudi, Top Congo FM à Kinshasa, bien évidemment. On le comprend, hein, les enjeux financiers sont énormes. On a cette réforme des statuts de la FIFA qui fait que l'attribution de cette Coupe du Monde 2026 va se faire lors d'un vote, évidemment, de l'Assemblée Générale. Ce n'est plus le comité exécutif et un petit nombre restreint qui va choisir le pays ou les pays organisateurs pour cette Coupe du Monde 2026. Mais est-ce que, encore une fois, moi je suis plutôt évidemment la Real Politique, est-ce que la candidature marocaine peut poser face évidemment à la candidature trio Mexique, Canada et États-Unis? Alors désolé, la connexion avec Kinshasa, pas possible. Pardon pour la qualité. On va poser la question à Amédine Si, qui est au Sénégal. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Nicolas Pilon et bonsoir à tous.
Alors Amédine, je le disais, est-ce que la candidature marocaine fait vraiment le poids? Évidemment, elle est sérieuse, elle répond à tous les critères, ça c'est une évidence. Mais face aux enjeux, finalement, est-ce que la réforme d'attribution de cette Coupe du Monde 2026 va vraiment changer les choses selon vous?
Oui, ça va changer les choses puisque le Maroc a démontré que c'est un sérieux candidat pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Déjà, si on regarde ce qui s'est passé pour le CHAN, le Maroc qui a organisé à pied levé cette compétition à merveille, puisque les Marocains ont non seulement relevé le but de la participation, mais ils ont également relevé le but de l'organisation. C'est vrai qu'on essaye de changer les règles du jeu, mais les Africains aussi doivent se battre. On a 54 États pour soutenir la candidature du Maroc, n'en déplaise au président de la FIFA, Gianni Infantino, mais les Africains doivent soutenir la candidature du Maroc. Ce n'est pas normal que depuis que le football est football, depuis que la Coupe du Monde existe, l'Afrique n'a eu à organiser qu'une seule fois en Afrique du Sud. Donc on doit se battre. Et puis, si on regarde quand même les candidats qui sont en face du Maroc, le Maroc peut relever des défis et le Maroc l'a démontré et je pense que les Africains vont se battre pour cela. Le Maroc a les épaules larges pour organiser la Coupe du Monde en 2026 et je suis sûr de cela et je sais que les Africains sont également sûrs de cela, Nicolas Pignon.
Merci beaucoup. On va prendre un nouvel auditeur qui nous appelle du Burkina Faso. C'est Aruna. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors vous avez suivi le CHAN évidemment, hein, les Burkinabés qui ont été renvoyés à la maison. Qu'avez-vous pensé de cette finale Maroc-Nigeria?
C'est une finale vraiment, les deux ont mérité leur place. Mais il faut dire que dès le départ, on avait déjà une équipe qui était hyper favorite pour moi. C'était pour moi, le Cameroun, vient de m'aider jusqu'à se trouver en finale. Ouais. Mais il faut reconnaître qu'en finale, ils n'ont pas été à la hauteur hein, face à la prestation des Marocains que nous avons tous constaté qui était largement supérieure.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir appelé Aruna depuis le Burkina Faso. On va évidemment suivre ça. On va poser la question, bien évidemment, à Élisée Ongpatine. Élisée, vous êtes avec nous? Élisée, est-ce que vous nous entendez?
Oui, c'est allô Nicolas.
Très bien, Élisée, on le disait, hein, un petit peu l'agacement hein, du président Armat de la CAF de ne pas pu avoir fait voter, évidemment, la Confédération africaine. Est-ce que finalement ça a de l'importance hein, quand on sait qu'évidemment les pays de la Confédération risquent de soutenir hein, le Maroc hein?
Oui, bien évidemment, puisque Infantino, lors de ce déplacement, a fait savoir qu'il faut faire des prudents hein, par rapport à ce vote, qu'il faudrait être neutre. C'est vrai que Ahmad voulait demander à tous les membres hein, de cette confédération africaine, toutes les fédérations hein, qui composent la CAF, hein, de soutenir amèrement la candidature du Maroc hein, pour l'organisation de cette Coupe du Monde. C'est un grand coup, mais il faut le dire, puisque aujourd'hui, c'est vrai que Ahmad a tout fait pour se faire élire à la tête de la Confédération africaine de football, mais depuis un certain moment, il faut le dire, puisque ça a commencé par venir un peu au sein de ce comité, hein, il faut le dire, puisque cette déclaration n'arrange pas du tout, surtout hein, pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté du Cameroun. Donc, forcément, il doit y avoir quelques problème au niveau de cette Confédération africaine de football pour pouvoir soutenir le Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde. Mais Ahmad est un stratège, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui sait faire de la politique, hein, qui sait mélanger un peu de tout, et il pourra quand même se faire entendre au sein de ce comité exécutif, pourquoi pas permettre aux fédérations africaines de football, pourquoi pas de voter, parce que quand on sait que la Confédération africaine de football a beaucoup hein, de votes hein, au sein de la Fédération africaine de football, Fédération internationale de football, association, et ça pourra changer les données. Mais une chose est sûre, on sera bien profité, mais ce sera une très bonne chose hein, d'avoir le Maroc organisé une Coupe du Monde, en fait, bien sûr, la plus difficile de ce qui s'est passé en 2010.
Merci beaucoup. Allez, on va refaire un essai avec Kinshasa. Thierry Kamundi, Top Congo FM. Thierry, vous nous entendez?
Oui, je vous entends, Nicolas.
Alors Thierry, on le disait, hein, est-ce que selon vous, d'ici le 13 juin, il me semble, le Maroc va pouvoir clairement exister face à la candidature États-Unis, Canada, Mexique lors du prochain vote de la FIFA?
Ça sera difficile, mais le Maroc...